Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview. En hommage à Claude Alfondéry, décédé récemment à 101 ans, il fut résistant et aussi visionnaire de l'économie sociale et solidaire. Et un hommage lui est rendu donc mercredi 8 mai à 17h. Ça sera à la salle Séverine Baumier à Die, donc dans la rue Joseph Reynaud. Pour cela, nous avons au studio Monsieur Claude Véret. Bonjour.
Bonjour à la radio, bonjour à vos auditrices et auditeurs.
Et de Monsieur Jean-Louis Vira, bonjour.
Eh bien bonjour à toutes et tous.
Tous deux, vous êtes une des figures locales autour de écologie au quotidien notamment, mais également aussi avec le Labo de la Transition. Et pour cela, vous nous présenterez rapidement ces structures pour les néo-arrivants, on ne sait jamais. Et puis vous nous parlerez aussi donc de ce rendez-vous qui durera 4 heures et où il s'agira non seulement de rendre hommage, mais aussi peut-être d'accueillir des personnalités et de présentations diverses. Et donc, Monsieur Jean-Louis Vira, pour vous, qui était Claude Alfondéry ?
Claude, mon voisin, Claude Véret, en parlera beaucoup mieux que moi parce qu'il l'a beaucoup mieux connu. Moi, j'ai surtout échangé avec lui ces derniers mois, cette dernière année, sur cette préoccupation commune de voir une situation, on va dire, mentale et politique qui est en train de se dégrader et le souhait de voir quand même les forces progressistes se ressaisir, ce qui malheureusement n'est toujours pas le cas, on le voit avec les élections européennes. Bref, donc, si vous êtes d'accord, je passe la parole à Claude qui va dresser un portrait de Claude Alfondéry beaucoup plus vivant par son vécu.
Écoute, merci Jean-Louis. Claude, moi je l'ai rencontré plusieurs fois, mais je l'ai rencontré dans le cadre du laboratoire de l'économie sociale et solidaire, sur lequel nous travaillons depuis des années, sur des territoires innovants, des initiatives de changement, des initiatives de coopération sur différents territoires en France. Et donc, on a été amenés à se côtoyer. Et une des fois où je suis monté à Paris pour le voir au labo, je ne le savais pas. Il me dit, mais tu es de Die et du Vercors ? Alors je dis oui. Et il me dit, écoute, moi, le 14 juillet 1944, j'étais sur la place de Die, sur la place de la République, avec le drapeau français. On sortait de la sous-préfecture avec des personnes de la résistance. Et on a fait ce 14 juillet sur cette place. Et c'est vrai qu'après, je suis allé voir un peu sur les sites et le musée de la résistance en particulier. Mais aussi sur d'autres, il y a un film qui a été fait dans les archives de la municipalité d'ailleurs, où on voit le 14 juillet à Die. Et c'est assez instructif de voir d'abord que ce 14 juillet est fêté. Ce 14 juillet est comme une phase de la libération de la France avant les événements du 21, 22, 23, jusqu'au 27 juillet à Die, qui seront dramatiques. Et c'est là qu'on est tombé les bras l'un dans l'autre et on s'est dit, c'est une histoire qui nous relie. Alors moi, je parlerai de la mienne si la question est posée, mais moi, j'ai un lien très particulier avec la guerre et la résistance, puisque natif du Vercors, j'ai vécu ces événements par mes parents, mes grands-parents et toute ma famille. Et donc, je suis très sensible à cette période.
Quelle était la force de caractère de Claude Alfondéry, justement, pour pouvoir emmener tout ce monde avec lui sur cette notion d'économie solidaire et sociale ?
Alors, Claude Alfondéry, c'était quelqu'un de chaleureux, c'était quelqu'un de joyeux. Quand on le croisait, il avait les yeux qui pétillaient, il était très avenant. Donc déjà, sa personnalité, c'était un vrai bonheur de le croiser. Et puis, il avait cet art aussi de marier des choses qui étaient des fois difficilement mariables. Par exemple, pendant la guerre, quand il était responsable du comité de libération de la Drôme et de l'Ardèche, il était arrivé à faire travailler ensemble la résistance les FTP, hein, la résistance communiste, avec la résistance protestante, la résistance catholique, avec des gens qui venaient plutôt des milieux un peu socialistes, de la SFIO. Et donc, comme il était encarté nulle part, il avait cette capacité de mettre les gens en lien. Et toute sa vie, il a mis des gens en lien qui avaient des choses à dire, des choses à faire, qui innovaient, qui créaient, mais qui étaient hors un peu des sentiers battus, des idéologies ou des caricatures qu'on en fait. Et donc ça, c'est une grande qualité. Et je trouve que cet esprit-là, il est à revivifier, il a réoxygéné. Ça nous apprend beaucoup de choses, en définitive.
Voilà. Et dès sa jeunesse, hein, semble-t-il, il était engagé au Front populaire. Il y avait cette fibre en lui, donc d'une politique sociale.
Sa grand-mère était à la Ligue des droits de l'homme. Alors donc, il a été façonné, il a été éduqué, je mets des guillemets au mot, mais il a toujours baigné dans ces milieux militants, ces milieux sur la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. Et donc, ça a irrigué son cheminement. Et puis, son grand-père était maire de Chaumont, ouais. Et il était très engagé dans le radicalisme à l'époque. Hein, c'était un peu les prémices de la SFIO. Et donc, il était aussi très impliqué dans ce cheminement social, voire socialiste. D'ailleurs, il a adhéré d'abord au Parti communiste, mais comme tous les intellectuels de l'époque, Edgar Morin ou d'autres, et il est allé tout de suite après, même si c'était au PS, même si c'était très proche de Rocard et du PSU.
Et puis, très vite, ensuite, il y a eu la libération, son engagement au Parti communiste, et il y a ses contacts avec, par exemple, la Société des Nations. Pour lui, c'était aussi aller à la découverte d'échanges également sur des idées qui lui convenaient ou qui lui étaient similaires peut-être, ou d'aller à des découvertes également.
Quand on sort de la guerre, il est happé par aussi tout un mouvement. Je pense à Jean Monnet, je pense à Schumann, je pense à plein de gens qui à ce moment-là se disent « mais qu'est-ce qu'on va faire de cette situation européenne ?» Et là, ça rejoint des préoccupations très actuelles. Qu'est-ce qu'on va construire ? Alors, il y avait d'abord dépassé la SDN et créer l'ONU, c'était un des aspects, mais aussi créer quelque chose qui, en Europe, ne permettrait pas de renouveler les trois guerres qu'on a eues successives, 71, 14, 18, 39, 45. Sortir de ça, c'était un vrai challenge. Sortir d'une guerre qui avait été quand même franchement atroce avec les Allemands, avec les nazis, disons plus franchement, avec les nazis qui avaient fait, sur l'ensemble de la planète, à peu près 50 millions de morts, c'est pas anodin. On peut mettre ça en perspective de ce qui se passe aujourd'hui. Et il y avait un vrai challenge. Et je pense que c'était d'abord dans ces valeurs, hein, c'est les valeurs de la Ligue des droits de l'homme aussi et de la SFIO à l'époque, c'est la paix. Et comment construire la paix et comment construire l'Europe ? Et je pense que les deux sont intimement liés. Aujourd'hui, moi-même, ça fait 80 ans, je crois, ce jour, que l'Europe est en paix. 80 ans, qu'elle n'a jamais connu une période aussi longue de paix. Je suis la première génération qui ne suis pas allée mourir dans les tranchées à Verdun ou dans la Somme, ou qui n'ait pas été assassinée sur le Vercors dans une résistance. Et donc, je peux croire... et je peux même affirmer qu'on a une chance inouïe d'avoir construit ça pendant 80 ans. Honneur à eux qui ont eu la fibre de construire cette paix. Et on le voit d'ailleurs, la guerre, elle a été à nos frontières. Elle a été en Yougoslavie, elle a été en Ukraine. Mais elle n'est pas venue empiéter sur les 27 ou 28 pays de la communauté européenne, de l'Union européenne aujourd'hui. Donc il y a une vraie réussite là. C'est un pays où quand même... Même si on pourrait faire des allusions à la Hongrie ou à la Pologne à certains moments, ou à d'autres, ou à l'Italie en ce moment même, c'est un pays où la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de publier, la liberté d'avoir des radios libres existe. C'est un pays où on vote, on peut s'exprimer. Je ne sais pas combien il y aura de listes aux européennes, mais sûrement une quantité qui permet de voter à peu près ce qu'on veut. On est dans un vrai pays où la démocratie existe. Et même si on pourrait... parler de toutes les difficultés qu'a avancé la démocratie. La démocratie, les gens, ils pensent que c'est une chose acquise. Je ne vais pas être trop long, mais quand Ptolème de Gouges se fait couper la tête en 1793, il faudra attendre 151 ans pour que les femmes aient le droit de vote. Donc la démocratie, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça, comme si ça tombait du ciel. C'est quelque chose qui se construit lentement, qui avance, qui parfois recule, hein, 42-44, recule grandement, réavance petit à petit. En réalité, on la construit au quotidien, tous les jours, la démocratie.
Jean-Louis Vira, vous parliez aussi de cette période d'entre-deux-guerres où se côtoyaient l'insouciance et la montée des extrêmes. Et vous y voyez vous-même, en quelque sorte, un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Tout à fait. C'est vraiment, je crois que c'est une question très importante. Partons de ce qu'on peut observer aujourd'hui. On le voit bien, on est dans une société qui est de plus en plus clivée. Avec des affrontements, des violences, y compris des fois dans les mêmes camps. Il n'y a qu'à voir la gauche, comment elle se comporte, les affrontements entre les différents...
Hein. On a pu voir ce week-end au 1er mai.
Exactement. Hein. Hein, exactement. Donc, cette situation, on la voit ces jours-ci. Et pour élargir un petit peu le sujet, moi, personnellement, et je n'hésite pas dans les mots que je vais employer, je suis scandalisé par l'insouciance triste de la plupart des adultes. Hein, je vais mettre les jeunes à part parce qu'ils sont en phase de construction. Mais je suis effectivement effaré par cette insouciance triste, ce qui m'amène à évoquer l'entre-deux-guerres, cette insouciance triste qui a existé avec la montée des extrémismes. La suite, on la connaît. Et ça me ramène à nouveau à Claude Alfandéry, parce que, comme l'a évoqué Claude Verret, il a eu cette remarquable vertu dont on devrait beaucoup plus s'inspirer, d'arriver à regrouper des gens qui étaient profondément antagonistes de l'extrême-gauche à pratiquement une certaine extrême-droite, on va dire conservatrice et royaliste, hein, anti-nazi bien entendu. Donc il avait ce côté... il a donné là un exemple historique et émouvant du fait que face au péril, on devrait justement se poser des questions. Est-ce qu'on continue dans nos guerres intestines ou pas ? Hein ? Et donc, on voit bien qu'il y a des similitudes qui peuvent nous inspirer aujourd'hui. D'où l'importance de cet hommage, de ce témoignage que nous allons avoir au sujet de Claude et d'autres choses dont on va parler.
Je reviens un peu sur cette période 42-44. Il y avait l'école du Riage, près de Grenoble, où là, justement, les antagonismes s'étaient en même temps rassemblés. Et ça pouvait effectivement produire une exemplarité, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous en pensez de cet héritage de l'école du Riage et qu'est-ce qui aurait pu continuer ou persister ?
Alors, l'école du Riage, c'est un exemple extrêmement intéressant parce que ça, c'est monté par le Darlan et le maréchal Pétain. C'est tout de suite, là, ils veulent former les cadres de la nouvel État. Et en réalité, ils vont rassembler là pas mal d'intellectuels et de jeunes, puisqu'ils vont avoir formé jusqu'à 350 jeunes quand on arrêtera l'expérience du Riage. Et en réalité, ces jeunes sont confrontés à une multitude d'enseignants ou de personnes. Alors, on pense tout de suite à Beuve Méry, qui fondera Le Monde à la sortie. On pense à Emmanuel Mounier, qui fondera le personnalisme et la citoyenneté à la libération. Et Carcérès, de l'éducation populaire, hein, qui est un des grands de l'éducation populaire. Donc, c'est devenu un nid de réflexion, un nid de débat. Et en réalité, à un certain moment, cette école va être le nid, oui, de la résistance, de l'élaboration d'une pensée de la résistance. À Uriage, on discutait bien sûr avec Mounier du catholicisme social, mais il y avait des enseignements sur le marxisme. À l'époque, c'était à l'époque de 42-44, c'était pas chose simple de parler de ça. Et donc, ça a été une sorte de vivier d'élaboration de la pensée qui allait alimenter le Conseil national de la résistance. Et donc, quand on voit tout ce travail qui a été fait à l'école du Riage, Emmanuel Mounier est venu à Chamarche, quand il y avait l'hôpital qui a été brûlé par les Allemands en 1944. Il est venu, il faisait partie de ces groupes volants, comme on appelait à l'époque, de résistants, qui venaient enseigner l'éducation ou l'éducation populaire, ou en tout cas un mélange d'activités physiques, de chants et de débat public de l'école du Riage dans les camps de résistance. Et donc tout ce travail d'élaboration va aboutir avec toute cette réflexion qu'il y aura eu dans la résistance même, dans les camps de résistance, la dizaine de camps qu'il y avait sur le Vercors par exemple, hein, d'Autran à Lente, où il y a une pensée qui s'élabore. Le Conseil national de la résistance, on a l'impression que c'est un groupe de personnes, mais en réalité c'est toute cette effervescence qui a eu lieu pendant, dans ces groupes qui étaient très divers. Hein. Comme le disait Jean-Louis, il y avait des royalistes qui étaient très anti-nazis et même anti-allemands, on va le dire. Et puis ça allait jusqu'à l'extrême gauche, beaucoup d'Espagnols par exemple, qui avaient quitté 39 l'Espagne sous les feux de Franco, beaucoup de syndicalistes, de socialistes qui étaient poursuivis aussi, qui avaient même été interdits, de juifs qui avaient été interdits d'enseignement. Et donc toute cette pensée va arriver dans le Conseil national de la résistance. Le Conseil national de la résistance, c'est une chose extrêmement, c'est incroyable d'arriver à réunir autour de la table des royalistes jusqu'au Parti communiste et d'élaborer une nationalisation des banques, une nationalisation des entreprises qui ont collaboré. Aujourd'hui, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais je pense qu'il y a des entreprises, elles seraient quasiment nationalisées. À l'époque, elles, au total, auraient été nationalisées, je pense. Et donc, il y a une vraie effervescence et tout le monde se met d'accord là-dessus. C'est un enseignement incroyable de ce qu'on peut faire quand on en a la volonté politique.
À la suite de sa période communiste, donc, il s'engage aussi sur une fondation, celle de la Banque de Construction et des Travaux Publics. Ça, c'est un premier pas vers l'économie, puisqu'il était économiste aussi, hein, je pense.
Alors, c'est le cheminement après, on fait souvent les procès de certains. Moi, je me rappelle d'Emmanueli, qui était banquier, qui était au Parti Socialiste. Donc, on dit, allez, c'est un banquier, donc il est totalement pourri jusqu'à la moelle et donc on n'en sortira jamais rien. En réalité, chacun dans son domaine peut faire des choses franchement intéressantes. On a eu des entreprises, je pense, des coopératives comme les Bois Mondeau, par exemple, les entreprises de boîtiers de montres de Besançon, qui sont devenues sociales. On a pas mal d'entreprises qui, aussi, à un certain moment, ont basculé dans l'économie sociale et solidaire ou dans le mutualisme ou dans les coopérations. Aujourd'hui, on a des très beaux exemples territoriaux sur la coopération. Donc, c'est un champ qui va commencer à être investi. Et je pense que d'avoir quelqu'un qui est un cadre et un technicien qui maîtrise le sujet, c'est un plus pour l'économie. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas assez de gens qui prennent en compte ou comme important les mutations que doit entreprendre l'économie. Et je pense que lui, il avait bien saisi. Et d'amener l'économie pure et dure, je dirais même presque totalitaire à un certain moment, ou capitaliste, vers une économie sociale qui devrait être toujours solidaire, je pense que c'est un vrai cheminement philosophique, c'est un vrai cheminement intellectuel, c'est un vrai cheminement qui donne la voie pour une société et pour une économie au service de tous, une économie éthique au service de tous et de toutes.
Une période où on pouvait donc être banquier et philanthrope.
Oui, je pense que, alors ça va heurter mes camarades de l'ultra-gauche, mais je pense que tout le monde doit être amené aujourd'hui à embrasser les changements sociaux, environnementaux qui se présentent. Il n'y a personne qui peut rester au bord du chemin, il n'y a personne qui peut être dans le déni. Tous, on doit participer aux grandes mutations qui s'annoncent. C'est une évidence pour la survie, c'est une évidence pour nos jeunes générations, pour les enfants. Je pense qu'il faut avoir ce courage-là et pas être dans le déni.
Et donc, il y a toujours sa participation dans divers clubs, celui de Jean Moulin, qui est un club de réflexion, ou aussi un club échange et projet créé par Jacques Delors. Et puis, il y a donc sa participation aussi à la candidature de François Mitterrand en 1974. Il y a en quelque sorte un virage qui s'opère à ce moment-là aussi dans sa démarche.
Je ne sais pas si on peut appeler ça un virage ou une évolution. Tous ceux, et beaucoup, je pense à Edgar Morin, hein, je pense à quantité de gens qui ont adhéré au Parti communiste. Mais en 1942, adhérer au Parti communiste, c'était du bon sens. Je pense avant le pacte germano-soviétique, c'était du bon sens. Ça faisait partie de cette résistance, y compris intellectuelle. Mais des gens comme Aragon et d'autres, Éluard, ont adhéré au Parti communiste. Je pense aussi qu'après la guerre, et surtout après Prague, en 68, tout le monde a déserté le Parti communiste. Quand on a vu comment se comportait l'URSS vis-à-vis de ce qu'on appelait à l'époque les satellites, que ce soit l'intervention à Prague, que ce soit l'intervention en Pologne, que ce soit, on a vu que c'était une véritable dictature et qu'on était très loin du communisme et du socialisme qui était vanté depuis 1917. Donc je pense que là, il y a eu un grand saut qui a été fait par quantité de militants, qui ont, même Jean-Paul Sartre, qui ont été aveuglés jusqu'au dernier moment en croyant que se construisait là une société nouvelle, se construisait un socialisme humain. Il fait partie du lot. Il est resté 10 ans au Parti communiste, mais c'est normal qu'à un moment, il sorte du Parti communiste. Qu'est-ce qui s'offrait comme possibilité? Il était très proche de Rocard et de Delors, de Mendès-France aussi à un certain moment. À l'époque, c'était le Parti socialiste qui était le plus révolutionnaire, le plus autogestionnaire, en tout cas au niveau de la sensibilité politique. Et à un moment, le PSU s'est retrouvé quand même marginal dans cette grande aventure. Même Michel Rocard, un des leaders, Moussel et d'autres, vont aller au Parti socialiste parce qu'ils savent qu'il y a peut-être une possibilité d'alternance. Mais c'est intéressant. Alors, je ne vais pas faire non plus des parallèles, mais quand même, de voir que beaucoup de gens du Parti communiste, hein, je vous rappelle que dans le premier gouvernement Mitterrand, il y avait 3 ministres communistes. Des gens du PSU et d'autres organisations de gauche vont venir alimenter la candidature de François Mitterrand. La candidature de François Mitterrand, a posteriori, on pourrait dire, mais il y avait ça. Mais il ne faut pas oublier qu'on sortait de plus de 20 ans, je ne sais pas si c'est 21 ou 27 ans de gaullisme.
23 ans
de gaullisme, très, d'une certaine manière assez autoritaire, patriarcal, familiariste. On sortait d'une aventure aussi où on voulait changer un peu. 27 ans de gaullisme. Bon, ben, aujourd'hui, on ne met pas autant de temps pour sortir d'une aventure, d'une mandature en tout cas. Et donc, je pense qu'on a tous espéré à ce moment-là, parce qu'il y avait des gens intéressants autour de François Mitterrand. Et puis, il y avait beaucoup de gens comme Claude Alfandéry, des gens qui avaient, ça faisait 20, 30 ans qu'ils militaient, et qui se sont dit, il y a peut-être une opportunité, peut-être on va changer les choses, peut-être on y croit. Et on va l'entourer peut-être, François Mitterrand, on va lui faire des propositions. Et puis, bon, c'est passé ce qui s'est passé. Il y a eu 2 années à peu près d'embellie avec Mauroy. Et puis après, moi, je le dis comme ça, d'autres le diront autrement. Mais les lobbies, le capitalisme a repris la main là, sur cette aventure. Et grosso modo, il a quand même mis à part quelques actions extrêmement symboliques et extrêmement intéressantes, comme l'abolition de la peine de mort. On est revenu à une gestion du capitalisme plutôt traditionnelle, plutôt bon enfant. Et il n'a pas, dans les dernières années, il n'a pas été d'une innovation extraordinaire.
Ensuite, donc, l'avènement de Mitterrand en 81 et il y a en 88 la création de France Active, opérée donc par Claude Alfandéry et qui lançait justement des initiatives économiques créatrices d'emplois et aussi génératrices de solidarité. Ça, c'est en quelque sorte un point de départ sur son impact réel et qui a donné suite à ce que l'on sait. Donc,
Vas-y. Écoute, je pense qu'il avait saisi avant tout que déjà il y avait un problème d'emploi, mais aussi qu'il y avait un problème. Le capitalisme a cette mauvaise raison d'être de capter l'énergie et les liquidités pour des actionnaires ou pour des choses qui sont ni éthiques ni louables. Et à un moment, il a été un des premiers à comprendre que l'économie pouvait être au service des hommes et des femmes de ce territoire. Et quand on a pigé ça, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de créer des structures ou d'influencer des politiques qui vont être amenées à partager et le capital, ça, on rejoint Karl Marx, hein, la partage du capital et des outils de production. Et en définitive, il va être en tout cas une des fers de lance de l'économie sociale et solidaire dans France Active et dans les cheminements postérieurs, afin de mettre l'humain au cœur du cheminement économique. On ne le fait pas assez à la gauche de la gauche, on ne le fait pas assez à gauche tout court, et on ne l'a pas fait ni sous Mitterrand, ni sous Jospin, ni sous Hollande, hein, soyons réalistes. En réalité, l'économie aujourd'hui, on est bien placé à Écologie au quotidien pour en parler, c'est elle qui détruit, c'est l'industrialisme outrancier, c'est l'économie outrancière et totalitaire qui détruit la planète, qui détruit les océans, qui participe au réchauffement climatique, et la captation des finances qui pourraient aller à ces transitions qui est captée par les actionnaires. On voit en ce moment les polémiques dans la presse où des salaires sont 130 fois supérieurs au salaire minimum d'un travailleur de chez Opel ou d'entreprise d'automobile.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Je reviens vers vous, Jean-Louis Vira, par rapport à cet avènement de François Mitterrand en 81, qui, en fait, était issu de ce front commun, hein, qui permettait donc d'assembler toute la gauche autour de lui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous y voyez une possibilité, ou alors vous êtes plutôt pessimiste ?
Moi, j'ai beaucoup de craintes. J'ai beaucoup de craintes. Bien sûr, je rêve et je me fais souvent taxer de naïf ou d'idéaliste. J'assume. Néanmoins, j'ai beaucoup de craintes parce qu'il y a un tel cheminement intérieur de la part de la multitude des protagonistes pour arriver à sortir de ces clivages, de ces sectarismes, que de façon un peu caricaturale, j'imagine que la seule solution, c'est un petit peu ce qu'on a connu dans les années 40, c'est que tant qu'on n'est pas dans la grande catastrophe, ça va continuer. Et donc, est-ce qu'il faut pour autant souhaiter la grande catastrophe ou pas ? J'avoue que j'ai bien du mal à me prononcer. Il m'arrive de me dire, si vraiment on était dans la grande catastrophe, on se ressaisirait et on a vraiment besoin de repenser nos valeurs. Parce qu'effectivement, on s'enfonce dans une espèce de bain tiède, consumériste, individualiste et égoïste qui mène à notre perte. Donc, je voudrais bien, et nous agissons, et d'ailleurs peut-être que ça va nous amener à parler de l'intervention le 8 mai de Bastien Sibille dans le cadre du projet 1 milliard pour résister, pour une transformation écologique juste. C'est là le sujet, c'est de se dire qu'au fond, et c'est notre pari, Claude et moi et bien d'autres, heureusement, c'est de dire faisons tout ce qu'on peut pour qu'on arrive enfin à une transformation pacifiste. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et c'est ça qui est intéressant dans le projet de Bastien, qui est peut-être le seul vrai projet concret qui est appelé à avoir une grande visibilité et qui pourrait inspirer beaucoup de gens. C'est justement, à partir de réalisations concrètes, qu'on décrira peut-être tout à l'heure, d'inspirer, de prendre un virage qui serait en douceur et non pas brutal, comme ça a été le cas en 40.
Sylvie Elfandéry, qui sera présente à Dit, donc la belle-fille de Claude, et puis Bastien Sibille, du laboratoire de l'économie sociale et solidaire. Alors,
Bastien Sibille est un jeune homme pour moi, parce qu'avec mes 77 ans, un homme de 40 ans, pour moi, c'est vraiment un jeune. C'est un homme engagé dans l'économie sociale et solidaire. Et donc, pour tout vous dire, je fais une parenthèse, mais à mon avis, elle est importante. Parce que dans l'économie sociale et solidaire, en fait, c'est vraiment un fourre-tout. Il y a de tout. Il n'y a pas que du bon. Enfin, je suis un peu... J'y vais sans nuance, mais c'est pour faciliter mon expression. À tel point que je me projette dans un futur proche, puisque nous préparons les prochaines rencontres de Die et de la Biovallée, qui auront lieu en janvier. Et nous travaillons justement sur un ensemble de réflexions qui tournent autour du constat qu'on fait que on est actuellement de plus en plus sous une emprise des émotions qui est très mauvaise conseillère. Et donc, il y a ce désir d'aborder le sujet pour voir comment surmonter ça. Et dans les thèmes qui pourraient être abordés, il y a précisément celui de penser à faire à cette occasion-là un atelier qui pourrait être l'ébauche d'un manifeste de l'économie sociale et solidaire, mais pas que, mais également responsable sur le plan citoyen et sur le plan écologique. Et donc, pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que précisément, en tout cas c'est ce qui m'a semblé être envisageable à la réunion préparatoire de ce matin, à laquelle je participais, c'est que dans le cadre du projet du million, dont parlera Bastien...
Du milliard,
merci. faire en sorte qu'un manifeste d'une super économie sociale et solidaire qui, quelque part, donnerait une visibilité aux grandes valeurs qui auraient leur cohérence pour faire société, ça peut être très intéressant. Donc, je crois qu'il faut saluer cette initiative qui est en gestation depuis maintenant un an. Enfin, elle a déjà bien avancé. Hein. Actuellement, il y a à peu près 1500 bénévoles qui travaillent sur le sujet, dont nous-mêmes. Donc, vraiment, je crois que là, on a un point d'appui concret, fédérateur, parce que c'est clair qu'on se réclame d'aucun parti politique. On se réclame de la gauche, c'est clair, mais d'aucun parti politique. Et si on peut transgresser ces clivages que nous dénonçons, ça peut être porteur d'espoir et de l'espoir de pouvoir changer, pas dans la catastrophe.
Comment aller au-devant de ce public que vous recherchez, justement, pour reporter faire rayonner aussi ces notions d'économie sociale et solidaire.
C'est une question importante et je crois qu'il faut le dire. Encore hier, j'étais dans une assemblée où je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé très fort et ça aurait pu bien pu se faire. Je crois que là, c'est la question de réseau. Là, je m'adresse pratiquement à chaque citoyenne ou chaque citoyen. C'est, de mon point de vue, de mon expérience, d'être à différents endroits, dans différents circuits, ça crée une multitude d'interconnexions desquelles ressortent un certain nombre de synergies. Et c'est donc pas en étant seulement dans un organisme, dans une association, dans son couloir, que ça peut avancer. Ça avance parce que ça n'arrête pas de s'entrecroiser. Pas plus tard que ce matin, à la réunion en visio nationale à laquelle je participais, il y a 2-3 personnes que je ne connaissais pas, mais que j'ai identifiées, où tout en participant à la visio, je leur mets un mail pour leur dire « il faut qu'on rentre en contact, j'ai des choses à voir avec toi ». Et ça, c'est tous les jours. Donc je crois que vraiment, le message de ces propos, c'est d'encourager les citoyennes et les citoyens à être à plusieurs endroits en même temps pour que ça fasse une multitude de ramifications desquelles émergent les initiatives dont on a besoin.
En revenant sur Claude Alfondéry, on peut dire quand même que sa parole, ses actions ont eu principalement écho au niveau de la gauche en France. Est-ce que c'est similaire dans d'autres pays d'Europe d'ailleurs ?
Non, parce que d'abord l'histoire de la résistance est quand même une histoire franco-française, même s'il y a eu des résistances un peu dans tous les pays et une résistance extrêmement puissante et en Italie et en Yougoslavie à l'époque autour de Tito et une certaine résistance en Pologne. Mais la résistance française est la seule qui a élaboré un programme avec le Conseil national de la résistance et qui a nationalisé ces entreprises qui avaient collaboré, qui a fait un travail au niveau de la sécurité sociale, par exemple, et des retraites. Tout ce travail qui a été élaboré est quand même d'une originalité puissante et c'est à la France qu'on le doit. On le doit aussi à la maturité des personnes qui ont participé au Conseil national de la résistance, qui avaient participé à des longs cheminements depuis 1936, dont tu parlais tout à l'heure, depuis le Front populaire, et qui avaient la matière à mettre sur la table au niveau des négociations qui ont eu lieu au niveau du Conseil national de la résistance. Et puis, peut-être ce qui est louable et à noter aussi, c'est d'ailleurs l'investissement de Claude Alfondéry depuis la guerre, c'est la capacité de la société civile à faire les grandes transformations. Il y a un moment, la représentation est parfois obligée de prendre le train en marche, on va le dire comme ça. Mais en réalité, beaucoup d'initiatives se passent dans la société civile, dans le monde associatif, dans le monde des coopératives, des SIC, des SCOP. Aujourd'hui, la pensée économique se travaille beaucoup dans les unions régionales des SCOP, Regardez le territoire sur lequel on vit. Reprenons le Diwa simplement, ou la Biovallée. Les initiatives de transition se passent dans des collectifs. Je pense bien sûr immédiatement à la SIC de la Carline, ou à la SIC de Diwat, ou à la SIC du monastère de Sainte-Croix. C'est là que se passent les grandes transitions. Je pense que si on est un peu désillusionné par rapport à nos grandes COP21, à nos grands Green Deal européens, il y a un moment, les transitions économiques, sociales, environnementales, fraternelles se passeront sur les territoires. Et là, on a une grande leçon à apprendre de Claude Alfondéry et d'autres, c'est qu'on a le pouvoir entre nos mains de changer des choses à notre échelle, à l'échelle individuelle, à l'échelle de notre association, à l'échelle de notre commune, à l'échelle de notre intercommunalité de notre territoire, voire notre département. Après, ça nous échappe, évidemment. Mais là, on a la possibilité de faire changer les choses. Et je pense que tout le travail, par exemple, prenons un exemple aussi autre sur la rivière Drôme. Tout le travail qui a été fait est un travail territorial, un travail avec des intercos, avec des associations, avec des riverains, avec des gens qui sont investis depuis 50 ans autour de la rivière. Si on a une des plus belles rivières du monde, c'est parce que des citoyens et des citoyennes se sont attablés et se sont mis à la tâche. C'est pas venu que d'en haut, c'est venu aussi puisqu'il y a eu des lois, la loi européenne sur l'eau, les sages, les schémas d'aménagement, mais c'est les citoyens qui ont embrassé leur avenir à un certain moment, et c'est de là que viendra le changement.
Cette notion du laisser-faire, justement, qui permet à une population de gérer par elle-même, c'est comment peut-on dire, les enjeux de l'avenir, par exemple, face aussi à un État qui veut s'accaparer de plus en plus la gestion issue de l'économie associative. On peut voir avec tout ce qui concerne le chômage, ou aussi les valeurs de la République, une condition pour certaines associations. Quel est ce combat aussi qui pointe aussi autour de ces notions un peu antagonistes entre une étatisation peut-être outrancière et aussi un laisser-faire de la population pour améliorer?
On est dans des grands paradoxes et des grandes contradictions historiques. À la fois, tu parles d'un État qui deviendrait de plus en plus tentaculaire, et en même temps, on a un État qui n'a plus les salariés et les fonctionnaires pour contrôler. Aujourd'hui, il fait appel à des cabinets conseils pour faire ce que faisaient, il y a 50 ans, nos administrations. Et à un moment, il est complète contradiction. Et en même temps, regarde, il fait des grands dialogues et des grandes promesses sur le climat. On a des discours magnifiques, hein, de Chirac ou de Macron. Et puis, en réalité, les transitions, elles se font avec 10 watts ou avec la Carline ou avec des acteurs territoriaux. Donc, en définitive, l'État, il croit toujours qu'il a un pouvoir totalitaire, qu'il a un pouvoir. Et en réalité, l'économie est plus puissante que lui. Aujourd'hui, le budget de Google est plus important que le budget de l'Espagne. Donc, on voit bien que la puissance qu'ont les entreprises aujourd'hui au niveau planétaire. Donc, de dire que les citoyens et les citoyennes sont peut-être les acteurs du changement qui doit advenir dans le monde, je pense que ce n'est pas mettre à côté de la plaque. Et quant à compter que sur les États, quand je vois comment ils gèrent, même s'ils sont plus majoritaires peut-être, ou bien 41% la SNCF ou des choses comme ça, moi, je suis très dubitatif sur le rôle de l'État comme régulateur et comme initiateur, comme créateur. Quand on voit ce qui se passe au niveau de la gestion de l'eau en France, je suis très dubitatif sur et de les mutations que doit entraîner cette diminution de la pluviométrie et des grandes sécheresses, comment il va gérer l'agriculture, la souveraineté alimentaire en France. Je suis très dubitatif. Et quand on a vu récemment la remise en question de 30 années de cheminement au niveau environnemental, avec des techniciens, des associations, des élus, l'Europe qui ont travaillé, les agences de l'eau qui ont travaillé, et qu'en quelques coups de cuillère à peau, tout est mis à volo, sans jeu de mots, il y a un moment, on se pose la question, quel rôle joue l'État en tant que visionnaire ou en tant que régulateur? Il y a un moment, il ne joue pas son rôle. Donc, je suis pas très... J'ai pas peur que l'État français devienne tentaculaire, totalitaire. Je ne le crois pas. Même, et je vais prendre un exemple, même l'Italie de Meloni, aujourd'hui, n'est pas un État totalitaire. Elle fait avec, elle a accepté et épousé pas mal de directives européennes. Elle n'a pas remis l'Europe en cause. Elle gère de façon très maladroite et presque insignifiante les migrants. Elle ne sait pas faire. Et en réalité, on n'a pas des États qui ont la capacité de faire ce qu'ils disent. Et donc, je n'ai pas très, très peur. Moi, je pense que la démocratie aussi... Aujourd'hui, quand on parle démocratie, on croit toujours que c'est l'État ou les élections. La démocratie, c'est quand on vient parler ici, dans une radio. La démocratie, c'est quand on peut s'exprimer dans un journal. C'est quand on parle gentiment, correctement à ses voisins ou à ses adversaires politiques. La démocratie, chacun, on est en capacité de faire de la démocratie à notre échelle, dans les entreprises, dans les quartiers, dans les campagnes. Et je crois qu'aujourd'hui, cet enjeu-là, c'est un bel enjeu de savoir parler à nos semblables. C'est un bel enjeu de construire l'avenir ensemble. Et moi, je n'ai pas peur de ce côté-là, parce que il y a des gens intelligents partout. Et nous, dans la Biovallée, dans le Diois, on a plein de gens formidables. Je dirais même que la principale qualité du Diwa, avant ses montagnes et son Glandas, c'est la richesse des femmes et des hommes qui y vivent.
Il y a de nouveau cette proposition qui s'est effectuée en 2020 de recréer un Conseil national de la nouvelle résistance qui a été chapeauté malheureusement avec le Covid, mais encore.
Oh ben, mais encore, je crois que l'intention était louable et à mon avis, le Covid est plus un prétexte qu'une une explication. Évidemment, je suis assez sévère dans mon jugement vis-à-vis de la gauche à laquelle j'appartiens, hein, néanmoins, mais où on a des querelles de clochers à n'en plus finir, et donc on n'avance pas. Je pense qu'il faut effectivement interpeller les responsables sur le sujet. C'est marrant parce qu'on voit qu'on revient systématiquement à cette question d'une société de plus en plus clivée, morcelée, voire sectaire, voire violente. Hein. On sent bien qu'il y a, il y a cette envie, et puis, évidemment, louable, hein, et puis en même temps, il y a une espèce de conservatisme, de sauvetage de sa peau ou de son organisation au détriment des autres. Je mets en cause un peu les jeux politiques, à tel point que dans les initiatives actuelles, hein, je veux parler là de l'archipel des confluences, qui est une initiative intéressante parce qu'elle travaille dans ce sens-là, ou à l'intérieur de l'archipel des confluences, le mouvement Refaire Société, auquel je participe, à l'initiative duquel j'ai été, d'ailleurs. Il y a cette envie qui, au fond, je dirais, doit incomber exclusivement à la société civile. Le point de vue que je défends, et que je répète ici, c'est de dire... Avançons, faisons en sorte de concevoir quelque chose qui soit capable de séduire tous les gens raisonnables de notre pays et apportons-le sur un plateau, en quelque sorte, aux politiques en disant « Votre job, c'est maintenant de le mettre en œuvre. Hein. C'est ça qu'on veut, à vous de bosser. » Alors, il y en a qui vont partir d'un côté et de l'autre, mais globalement, c'est ça. Parce que si on leur confie ce travail de vision commune, là, je crains franchement que ça n'arrive jamais. Donc voilà pourquoi je distingue de plus en plus la société civile, comme l'a évoqué Claude, et notamment par la base, par l'action locale, par le travail avec les associations, etc. C'est de là, à mon avis, que va émerger une vision partagée qui soit l'alternative aux offres illusoires actuelles.
Je reviens sur ce mercredi 8 mai, donc en outre à l'hommage de... Pour Claude Alfondéry, il y aura donc des rencontres. Vous avez cité Bastien Siby et la belle-fille de Claude Alfondéry qui sera présente également. Qu'est-ce qui sera débattu, présenté aussi
Le programme est à peu près le suivant. Claude aura la charge de faire l'ouverture. Je ne vais pas demander son avis, mais c'est comme ça. Il saura très bien faire. Ce à quoi ensuite nous aurons un témoignage et un échange, principalement avec Sylvie Alfondéry, donc la belle-fille de Claude Alfondéry, et Pierre Alfondéry, le fils de Claude, que sa santé ne lui permet pas d'être présent parmi nous à Die. Donc on aura ça, quelques amis, notamment la personnalité qui a succédé à Claude Alfondéry à la présidence du laboratoire de l'ESS, qui s'appelle Hugues Siby, le père de Bastien. Donc il y a quand même là une ambiance familiale forte, une des convictions familiales fortes. Donc on aura cette première partie qui sera plus une question de témoignage et j'irai d'émotions partagées avec toute la dynamique que ça peut susciter, c'est ça qui est important. De telle façon ensuite dans la deuxième partie d'embrayer avec l'intervention de Bastien qui va pouvoir nous parler à partir du livre qu'il a coécrit d'ailleurs avec Claude Alfandéry ces derniers mois, qui s'appelle « Nous résistons, une opération milliard pour une transition, une transformation écologique juste ». Et donc ce projet que j'ai évoqué tout à l'heure sera l'occasion de le faire connaître, d'en parler, de mobiliser quelques troupes, etc. À la suite de quoi, la partie visio prendra fin et nous passerons un film qui s'appelle L'esprit de 45 et qui, en une heure à peu près, et à partir duquel nous pourrons échanger. Donc on a prévu que dans cette deuxième partie strictement locale, à partir du film et à partir du repas tiré du sac, on aura l'occasion d'échanger et, espérons-le, de donner envie à certaines ou certains de nous rejoindre dans ces engagements.
Je rappelle aux auditeurs donc cet hommage à Claude Alfandéry qui sera donné à partir de 17h à la salle Séverine Baumier. Rue Joseph Reynaud a dit, il y a un site internet
alors,
pour connaître...
Oui, alors ce que les personnes intéressées peuvent faire, c'est aller sur le site du laboratoire de la transition. Alors c'est très simple, il suffit de taper tout en attaché de préférence, mais peu importe, le laboratoire de la transition. Et sur le site, nous annonçons l'événement et en particulier, il y a le lien pour se connecter au cas où on ne veuille pas se déplacer.
Monsieur Claude Verret, une chose à rajouter ?
Ce qui me fait plaisir, c'est que là, nous discutons d'économie sociale et solidaire. Nous discutons d'économie sociale et solidaire. Imaginez d'aller discuter d'économie sociale et solidaire en Iran, en Chine ou à Moscou. Je pense qu'on a quand même un espace européen qui nous permet d'imaginer, de rêver une économie sociale et solidaire. Et c'est pourquoi je dis ça, parce qu'on est à veille d'élections européennes. Il y a des gens qui négligent. Alors qu'on sortait, comme on le disait tout à l'heure, de trois guerres fratricides, il y a des gens qui négligent cette dimension démocratique de l'Europe. On est sur une Europe qui essaye d'inventer un futur, d'inventer cette liberté qu'on a tous, hein, quoi qu'en disent certains, cette fraternité, cette justice sociale, ces droits des femmes et des hommes, cette démocratie, cette justice indépendante. C'est pas partout, hein. Vous allez en Iran, la justice n'est pas du tout indépendante, ni en Chine, ni en Russie. Et toutes ces valeurs-là, qui les porte sur la terre ? L'Europe. Qui est amené demain à faire foisonner ça, à faire fleurir ça de partout, à faire que ça puisse essaimer ? C'est l'Europe. Donc je crois qu'il y a un super enjeu, c'est de garantir toutes ces valeurs-là au niveau mondial. Et aujourd'hui, même s'il y aurait beaucoup à dire sur les engagements du Green Deal et sur l'environnement au niveau européen, c'est quand même l'Europe qui est la plus en avance sur ces réflexions, qui est la plus paritaire, qui est la plus démocratique. Ne l'oublions pas. Et je terminerai par ça. Et c'est extrêmement fragile, la démocratie. Ça peut, comme le disait un certain, ça peut être confisqué demain matin. Et donc, c'est un combat quotidien des femmes et des hommes de ce territoire, des hommes et des femmes de France, mais des hommes et des femmes d'Europe. On a un challenge formidable pour garantir la liberté à nos enfants.
Eh bien, je vous remercie en tout cas, M. Jean-Louis Vira et M. Claude Verret, de votre venue pour nous annoncer donc ce rendez-vous donné un hommage à Claude Alfandéry ce mercredi 8 mai à 10. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Eh bien, merci Radio Diwa et à bientôt.
Merci à vos auditrices et auditeurs. C'était un plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Okay, the bird.